concert d'ailleurs. Tu l'as vu, dernier Hong Sang-soo?
Night and Day, ouais.
J'étais un peu déçu, c'est dommage.
T'étais déçu.
De quoi?
Le dernier film de Hong Sang-soo.
T'étais déçu pourquoi?
Je trouvais ça un peu paresseux par rapport au dernier.
C'est quel film?
Night and Day.
Hong Sang-soo. C'est un réal coréen.
Ouais, il doit avoir pas plus de. Je sais pas, 1000 fans en France et encore.
Quelques centaines de fans en Corée, mais.
J'ai pas vu.
C'est vachement bien.
C'est le dernier.
Voilà, donc c'était La Vie Orange de
Sophie Le Tourneur.
Parce qu'il y a même une question, est-ce que le cinéma d'Hong Sang-soo ne concerne pas que 1000 bobos
niche,
en
quoi.
France, une niche de bobos en France et qui nous fait un petit peu parler donc comme ça dans des soirées ou dans des terrasses parisiennes l'été et ne parle pas vraiment du monde et en tout cas ne parle vraiment à très très peu de gens. Donc est-ce que c'est pas un cinéma plutôt de niche élitiste
Nombriliste, presque.
Et nombriliste, ouais.
En tout cas, ouais, je crois que c'était un peu l'intention de Sophie Le Tourneur. Je l'avais interrogée là-dessus, à l'époque de La Vie Orange, sur cette scène précise, sur ce dialogue. Et elle disait qu'en même temps, c'est le genre de discussion qu'elle avait envie d'inclure dans le film parce que ça dénotait du reste du film. Les filles, quand elles parlent entre elles, ont tendance à parler de choses très triviales, elles ont encore un état adolescent, là où lorsque cette fille se retrouve avec ses deux garçons, elle voit, je crois qu'elle a employé le terme d'adulte, elle est face à une discussion d'adulte. Et donc Sophie Le Tourneur voyait une corrélation entre la discussion d'adulte et la discussion totalement culturelle, hein, d'une certaine manière. Donc il y a effectivement quelque chose de satirique dans cette séquence, je pense qu'elle l'a vraiment intégré à son film pour ça, pour montrer un peu ce milieu, effectivement, un petit peu bobo, voilà. Maintenant, est-ce que moi, je dois me sentir concerné? Est-ce que nous devons nous sentir concernés? On l'est forcément. C'est vrai qu'il y a, ne serait-ce que dans l'accent, la manière de parler, la manière de tourner les phrases, oui, je pense que cet Hong Sang-soo n'est pas du même calibre que les précédents, il y a quelque chose d'assez juste.
Plus décevant, n'est-ce pas?
Voilà.
J'espère qu'on n'est pas voilà. Trop comme ça non plus. Parce que...
Mais c'est vrai que le fait que ça soit... que ça arrive à devenir carrément l'objet d'une séquence de film, je trouve que c'est assez... ça pose des questions. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Victor, justement?
Alors, moins sur le film, ça dénote forcément d'une certaine réalité, puisque, effectivement, le public de Hong Sang-soo, c'est quand même des bobos parisiens, on va dire. Enfin, c'est un peu... C'est soit des cinéphiles qui ne sont pas forcément ces personnes-là qu'on voit dans le film... Moi, je suis un peu sceptique sur le fait d'avoir une discussion d'adulte quand on parle de Hong Sang-soo. Il y a une thématique qui peut être adulte. Après, quand on les écoute parler, j'ose espérer qu'on dit des trucs un peu plus intéressants. Parce qu'ils disent rien du tout sur les films. Enfin, ils disent, ouais, celui-là, il est un peu ennuyeux. Celui-là,
et c'est contradictoire, parce qu'il dit justement dans la scène, bon, il est un petit peu paresseux, le dernier Hong Sang-soo. Et à la fin, non, c'est génial. Donc voilà, c'est quand même le côté un petit peu contradictoire.
Mais c'est justement alors une discussion qu'on pourrait trouver chez Hong Sang-soo. Ou qui on a parlé beaucoup de beaucoup de cinéastes auxquels Hong Sang-soo pouvait faire penser. Et étrangement, on a parlé aussi qu'il y avait peu de discussions sur le cinéma, mais il y a peu de références explicites, c'est-à-dire que les personnages ne vont pas au cinéma. Mm-hmm. Je crois qu'il y a une scène dans Les Femmes de mes amis où le personnage va en festival, mm-hmm. et c'est un personnage de cinéaste qui est censé être juré d'un festival de cinéma. Finalement, on le voit, première scène, il arrive, il regarde un film, on ne sait pas quel est le film, alors qu'un cinéaste cinéphile aurait pu dire, on l'a vu dans le dernier des Pléchins, ils vont voir du... donc il y a Mathieu Amalric qui amène Benicio del Toro voir un film, ils vont voir du Ford. Donc voilà, le cinéaste cinéphile aime quand même dire, voilà, là j'ai une citation de Ford dans ce film, ça fait sens avec le reste. Donc surtout, on ne sait pas ce qu'il voit. Et on voit juste que le personnage s'endort, ne voit aucun film, et finalement il retourne à son hôtel, il va dormir, et on voit juste un plan où il dort devant un film. Donc je suis complètement sorti du sujet. En même temps, mais en tout cas c'était sur la réflexion, le jeu des références qu'il n'y a pas du tout chez Hong Sang-soo. Et je suis un peu retombé là-dessus en disant que finalement, donc La Vie Orange était peut-être plus nombriliste, et beaucoup plus nombriliste que le cinéma de Hong Sang-soo, parce que justement, elle fait référence à ces petits clins d'œil qu'on ne va pas trouver chez Hong Sang-soo, qui peut s'adresser à peu près n'importe qui n'a pas besoin d'avoir des références extérieures à son cinéma pour apprécier ses films. Et au contraire, moi, je trouve que c'est un cinéaste qui est très, très universel dans ses sujets, qui est pas forcément facile d'accès, donc on va le voir plutôt en festival, et ça va être plutôt dans des milieux élitistes, mais qui en tout cas s'adresse vraiment à tout le monde et n'est pas forcément que qu'à nous, quoi.
Et donc il y a peu de chances qu'Aung San-Suu, par exemple, fasse jouer des critiques de cinéma dans un de ses films, comme l'a fait Sophie Le Tourneur dans son film suivant. Enfin, dans...
Alors, ayant revu Night and Day, c'est un des rares que j'ai revu, mais il est dans un appartement parisien et on voit quand même mis en évidence une couverture des cahiers du cinéma. Il me semble qu'il est assez proche de Charles Tesson, je crois. J'en suis pas sûr, peut-être que je dis une bêtise.
Vincent Maloza, oui.
Oui, après, ouais. Aucun des cahiers, ouais, il en a beaucoup aimé. Ouais.
Et donc, ça serait pas. Il pourrait faire jouer un critique, mais à mon avis, le critique n'aurait pas de discussion sur le cinéma. Ou va pas dire voilà, j'ai vu tel film de Sophie Le Tourneur en France. Voilà, enfin, en tout cas, c'est pas une scène qu'on pourrait retrouver, même s'il y avait un critique de cinéma. Le critique de cinéma, donc Sung-Soo, à mon avis, serait incapable d'avoir un discours articulé sur le cinéma. Mmh. On lui demanderait ce qu'est le cinéma, et il pourrait rien dire, quoi. C'est un peu.
Je reviens sur le côté universel de Aung San-Suu dont tu parlais précédemment. Il a quand même ses mimiques cinématographiques. Ce serait bien qu'on aborde le sujet quand même, parce qu'au moins un petit peu des trucs un peu what the fuck, quoi. Parce que voir quand même des zooms en plein milieu d'une scène se rapprocher subitement sans vraiment, sans savoir trop pourquoi, c'est quand même, ça lui fait quand même la patte à Aung San-Suu, comme le fait de zoomer aussi sur des tout petits détails qui, pour nous, n'ont absolument aucune compréhension, mais que pour lui aussi, ouais. Fait aussi des, y a aussi des autocitations, par exemple, dans I-1, sur de zoomer des petits détails. Alors là, c'est sur une cigarette, on la voit trois fois, elle se fait écraser deux fois, et ça joue, parce que ça joue, il y a aussi un décalage entre les rêves et la réalité, parce que la cigarette se fait écraser une fois dans la réalité et une fois dans les rêves. Donc bon, il y a des petites scènes comme ça. Et donc moi, je dirais qu'il y a quand même le style HSS, qu'on reparlait derrière, mais c'est vraiment quelque chose de... Certes, c'est un petit peu universel dans les relations sentimentales, mais il a quand même cinématographiquement dans sa forme sa propre patte. Alors après, je sais que
c'était justement le là on va pour articuler un peu cette dernière partie. Mm-hmm. C'est trois reproches majeurs. Le premier, c'est un cinéma élitiste, et le deuxième, c'est un cinéma qui n'est pas un cinéma de mise en scène. En gros, il y a des critiques qui reviennent sur les gens qui détestent son cinéma, qui disent que Aung San-Suu ne fait pas de la mise en scène, ils sont tentés de poser sa caméra, il filme, il fait un pauvre zoom, on ne sait pas pourquoi. Et voilà, donc où se situe la... Il a eu à Locarno, d'ailleurs, le prix de la mise en scène.
Et c'est ironique.
Et où se situe la mise en scène chez Aung San-Suu, d'après vous?
Bah, c'est facile, c'était Aung San-Suu qui était dans le jury. Bah ouais.
C'est... Enfin voilà, moi j'ai eu l'impression la première fois, surtout face à Woman on the Beach, d'un théâtre à ciel ouvert. C'est-à-dire que je crois que c'est ça, hein, il ne donne pas de il ne donne que des pistes à ses acteurs, c'est ça, avant de filmer la scène.
J'ai entendu des trucs un peu différents.
Et ça, ouais, alors ça, j'en ai lu. Vas-y, ouais. Vas-y.
Moi, j'ai l'impression qu'il écrit énormément, et ensuite il fait énormément de prises.
Oui, tout à fait.
Jusqu'à trouver la scène qui. Réécrire. C'est lui qui réécrit tous les textes,
oui.
Mais il réécrit en fonction sur le tournage, la nuit. En fonction de ce que lui donnent les acteurs, en fait.
Voilà.
Donc voilà, il ne laisse pas les acteurs simplement livrer à eux-mêmes, quoi.
Il y a quand même une certaine forme d'improvisation. Sur ses premiers, par exemple, il faisait exprès, en fait, d'alcooliser ses acteurs pour que dans les scènes, finalement, quand ils étaient dans des restos en train de boire, que voilà, ce soit leurs émotions, leurs mots dans les dialogues qui construisent le récit. Donc voilà, il donnait, je pense qu'avant, il donnait le lieu, la situation et qu'est-ce que normalement il devait se passer, et il les rendait un petit peu bourrés pour justement avoir plus de sincérité dans leur jeu, et que petit à petit après, je pense que c'est peut-être lié au fait d'être autoproduit, qu'il a voulu changer de traitement de formel, et qu'il a commencé à construire le scénario au fur et à mesure du tournage sur des petites fiches. Et je lisais justement une interview dans les cahiers du cinéma, que Isabelle Huppert disait justement que c'était assez difficile de travailler avec Aung San-Suu, parce que justement il était complètement imprévisible, et qu'elle avait absolument pas compris dans In a Never Concrete pourquoi elle devait imiter une chèvre. Tu l'as pas vu, tu verras bien, mais voilà, elle avait absolument pas compris. Elle a absolument rien capté.
Quand la télé qui est du cinéma, qui a rien compris.
Voilà, et à la fin du film, elle se disait, mais je sais pas comment il va faire pour faire un film là-dedans.
Ça donne envie, en tout cas.
Voilà, c'est ça.
Mais c'est vrai que cette question de la mise en scène, effectivement. Enfin, moi, je trouve quand même que ces films sont très tenus. Enfin, voilà, moi, j'ai pas l'impression que ça soit approximatif, quoi. Lorsqu'une scène où on voit 10 personnages en train de boire du soju, voilà, et en parlant en même temps, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose, il y a un regard, quoi. C'est pas simplement débrouillez-vous, non. Enfin, j'ai quand même l'impression que elle est invisible, cette mise en scène. Voilà, au début, on disait que c'était pas du tout ostentatoire. Ben, je pense qu'il faut vraiment partir de là.
Il y a un côté presque amateurisme recréé, en fait. Enfin, moi, j'ai l'impression.
Mais alors, vraiment recréé, quoi. C'est-à-dire
ouais, que qu'il fait voilà. tourner énormément de prises jusqu'à ce qu'ils se disent « Ah, tiens, je vais garder celle-là, c'est celle-là que je veux », mais sans dire vraiment voilà, telle ou telle prise est bien ou pas bien. Et elle fait tourner une bonne cinquantaine de fois jusqu'à ce que lui, il obtienne le résultat sans que les acteurs savent que c'est la bonne prise.
Et surtout, il y a un sens du cadre qui définit sa mise en scène, où tout fait sens. Enfin, dans la construction, effectivement, il y a beaucoup de plans fixes. Dans sa construction du cadre, il y a pas un plan qu'on peut pas interpréter. Bon, là, on en a pas sous les yeux et c'est un peu. J'ai pas d'exemple. Si on peut prendre la scène du repas dans Aouane et les hommes, qui est cadrée de manière à ce qu'on voit exactement tous les personnages, qui est extrêmement, qui fait sens par rapport aux positions de chaque personne. Le professeur est au premier plan, Aouane est en face de lui quand elle s'en va. Ça recrée une nouvelle dynamique.
Il y a un
jeu avec le hors-champ quand il y a la serveuse qui arrive, qui va dire une phrase, qui va créer un énorme malaise et relancer une dynamique complètement autre. Et voilà, il y a ce sens du cadre et il va bouger sa caméra juste à la fin. Enfin, il me semble qu'il y a un plan de caméra, donc tout est très très écrit. Et des fois, j'ai l'impression qu'il s'amuse avec cette figure du zoom en insistant sur un détail. Enfin, c'est un cinéaste aussi de l'observation. Et qui peut détruire le cadrage qui semble être très construit. Donc c'est une espèce de fausse piste pour moi, ce zoom, et dire, voilà, en fait, le cadre n'est pas tellement construit que ça. Regardez, je peux vous faire un zoom sur une chenille qui est à côté de la piscine. Ça, il le fait dans Les Femmes de mes amis, dans ses premiers zooms.
Il a fait des études d'art plastique, si je me souviens bien. Enfin, je crois que c'est ça, il a une formation un petit peu de peintre. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez composite dans ces plans. Effectivement, c'est souvent des plans fixes qui vont ensuite s'attarder sur le motif, sur l'image dans le tapis. Il y a quelque chose de toujours. C'est un faux cinéma de surface, quoi. C'est ça. Ça le distingue encore un peu plus de Romère, peut-être. Je suis pas là pour descendre Romère.
C'est un cinéma de surface. avec un cinéaste faussement profond.
La profondeur est dans la surface, presque. La profondeur est dans ce qui s'énonce et dans ce. Dans la gestuelle d'un personnage, là où chez Aung San-soo, on a l'impression qu'il y aura toujours un moment où il faudra peut-être regarder dans ce qui semblait un angle mort. Enfin voilà, c'est un cinéma faussement passif. C'est un cinéma qui reste tendu jusque dans son délitement. Et voilà, il y a un sentiment de participation totale aux scènes que je ressens pas tout le temps, moi, dans le cinéma contemporain, et qui fait que je disais au départ que je ne pouvais pas être déçu par un film de Aung San-soo, et c'est précisément ça, quoi. C'est cette garantie, en entrant dans un film de Aung San-soo, même moins mémorable, qu'il y aura quand même de la scène, mais au sens vraiment basique du terme. Il y aura véritablement de la scène. On parlait de hors-champ, et c'est ça, c'est vivant, c'est animé. C'est
côté théâtre, presque.
Ouais, c'est ça, c'est un théâtre mêlé au réel, quand même, mais mêlé à la réalité de la prise de vue, de l'enregistrement.
Ouais, cinématographique. Moi, je vois pas trop l'aspect théâtral, justement.
Il n'y a pas de sécurité.
Dans ce film. Et je vais te retourner à la question. Tout à l'heure, tu as dit justement que quand on aimait son style, c'était impossible de ne pas trouver quelque chose qui plaisait, même dans ses films mineurs. Et est-ce que tu penses que quand on n'aime pas son cinéma, on peut trouver quelque chose d'intéressant dans ses films majeurs?
Prends ton temps. Oui, voilà, je suis content d'être venu, moi.
Tu veux que je dérange ?
Ah ouais, voilà, on va. Après, voilà, je.
Il faut te mettre à la place, voilà. de ces acteurs et.
Je sais qu'il y a eu des échanges, notamment sur Facebook, avec Yann Kerlock et Anel Dragic. Enfin, je me rappelle à l'époque où j'avais écrit sur Okiz Movie qu'il y avait eu une discussion où Yann Kerlock, qui vit en Corée, je crois, vous le connaissez ?
Non. Anel, oui, ça va bien.
Ouais, donc voilà, et il se posait la question de Aung San-soo qui commençait à se complaire un petit peu dans son système. Donc il y a eu une opposition, genre c'est un Aung San-soo de plus, voilà, quelque chose comme ça. Donc je pense que des gens. Je ne connais pas de personne qui est totalement indifférent au système Aung San-soo. Mais je vois des gens qui, progressivement, ont commencé à en avoir marre. Voilà, qui ont commencé à en avoir marre. Donc, voilà, des gens qui se sont dit... j'ai un ami qui s'appelle Mathieu Santelli, qui était très fan d'Aung San-soo, et qui n'a pas aimé ses deux précédents films, The Day Arrives et Another Country. Et je lui ai demandé, mais t'es sérieux là ? Comment se fait-il que tu ne mettes pas ce film dans ton top 10 ? Et il me dit, non. Voilà, enfin,
mais c'est d'ailleurs la troisième remarque qui revient sur le cinéma d'Aung San Suu, donc, que j'avais noté, qui fait toujours le même film et qui se répète. Donc est-ce que c'est vraiment le cas pour vous ?
Moi, j'arrive à les distinguer, en tout cas. J'arrive à les distinguer. J'ai l'impression de les aimer différemment chacun, même si je sais aussi que mon intérêt repose sur une certaine connivence avec son système, que ce soit ces questions de zoom, ces questions de plan fixe, de scène de soju, etc. Maintenant, ce qui fait que des personnes sortent un petit peu de ce cinéma, j'ai vraiment du mal à me l'expliquer. Voilà, moi je reste assez fidèle quand même à ce cinéma jusqu'au bout. C'est très difficile pour moi de m'identifier à une personne insensible.
Ouais, pareil, c'est un peu la même... un peu la même problématique, c'est-à-dire que si vous, dans les premiers films, vous n'avez vraiment pas aimé, je pense que c'est pas forcément utile d'aller forcément plus loin, et que moi, au début, j'ai aimé, mais sans vraiment adorer, et que petit à petit, finalement, cet effet de répétition cette faute d'effet de répétition, parce que pour moi, il n'y a pas un effet de répétition, il y a vraiment une lente évolution dans sa filmographie, m'a fait appréhender le réalisateur, et je suis sûr que maintenant, si je re-regardais encore ces films, j'aurais une grille de lecture différente par rapport à la première projection, et je pense que le fait de les voir régulièrement
change la perception.
Voilà, change la perception qu'on peut avoir du film. Et ce, de manière assez régulière. Quand vous regardez un HSS 10 fois en 10 ans, vous n'aurez jamais la même perception chaque année. Et justement, je trouve que ça a vraiment l'intérêt.
Il faut être très fan pour le regarder 10 fois en 10 ans.
Non, mais bon.
C'est surtout le même. Mais c'est vrai qu'il y a en tout cas, on sent une vraie évolution dans son cinéma. Et ça, je m'étais rendu compte à l'époque de AAA, où j'avais revu Le jour où le cochon est tombé dans le puits, et où son cinéma n'a absolument plus rien à voir avec ce qu'il y avait au début. Alors, comme il y en a un tous les 9 mois qui arrive, des fois entier regroupé avec 3 films ou 2 films, on ne se rend pas compte de cette évolution, mais c'est très frappant quand on regarde, là, si on revient à ses premiers films, si on compare La Vierge mise à nu par ses prétendants et à One Eyed Homme, ou si on compare Le jour où le cochon est tombé dans le puits à par exemple, les deux films n'ont vraiment rien à voir avec 10 films entre les deux, quoi. Mmh, donc il n'y a pas de répétition, il y a une légère évolution systémique, quoi, on va dire.
Ouais, mais il y a quand même un élan de légèreté et de modestie dans ces 3-4 derniers depuis quand même, il me semble que c'est AA sorti avant The Day You Arrive. Depuis AA, il y a quand même une sorte de légèreté qui transparaît dans ces films.
Moi, je ne les ai pas revus depuis, mais je me souviens que lorsque j'ai vu, je crois, en une seule matinée, ces 3 premiers films, j'avais noté une vraie différence déjà entre Le jour du cochon où le cochon est tombé dans le puits et Le pouvoir de la province de Kangoon. C'est-à-dire que là où Le jour où le cochon était un cinéma un peu agressif, la province était quelque chose de beaucoup plus... il y a quelque chose d'un peu plane, enfin d'aplani. Il laissait un peu plus de place à la respiration des plans, à la durée, à la vacance d'une certaine manière. J'avais l'impression qu'il était un peu moins dans le coup de force. J'ai l'impression que il n'a jamais cessé, d'une certaine manière, de redéfinir le cinéma, en tout cas tel qu'il le voyait. C'est pour ça que, pour moi, c'est un work in progress, son travail. Pour moi, ça n'a jamais cessé de sans cesse se réinterroger. Ce qui fait que c'est un cinéaste, pour moi, qui ne peut pas être vraiment lassant, parce que je crois que pour lui, faire un film, c'est ça, quoi. Justement, Okie's Movie, je crois qu'il l'avait fait entre 2 films. Il a réalisé très rapidement.
Plusieurs films, même, j'ai l'impression.
C'est ça, il avait d'autres films sur le feu, comme ça. Et je crois qu'il l'a fait pour se refaire pour ne pas perdre la main. Si je me souviens bien, c'est ce qu'il avait dit en interview. Et moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Qu'il y a une inquiétude chez lui qui fait qu'il ne faut jamais s'arrêter totalement de tourner, qu'il ne peut pas se reposer sur ses acquis. Il n'y a pas d'aboutissement possible, je pense. Et c'est ce qui fait qu'il m'intéressera toujours un peu. Et voilà.
Ouais, et il a que la 50aine en plus, donc il a de quoi te faire encore au moins une bonne dizaine ou une vingtaine de films, quoi, s'il carbure à ce rythme-là, quoi.
Non, même plus, hein. On verra comment ça évolue. Oui. Bon, nous, le podcast ne va pas s'arrêter de tourner, mais on va passer à la dernière partie, parce qu'on a parlé quand même 40 minutes.
Hein. Ouais.
Donc qui va être plus courte, on vous rassure. À tout de suite.